おかしいおかしい。
Heureux de vous retrouver dans cette tribune de la presse, trois quarts d'heure pour passer en revue les faits marquants de la semaine qui s'achève. Vous le savez, les chefs d'état-major du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi et de la RDC élaborent des possibilités pour mettre fin aux activités des rebelles à l'est de la RDC. Ils se sont réunis cette semaine à Bujumbura dans le cadre de la Tripartite Plus qui regroupe ces quatre pays. Nous analyserons ces propositions au cours de cette émission. Et au pays, aucune plénière cette semaine à l'Assemblée nationale. Ça fait aussi une semaine exactement que les députés de l'opposition ont claqué la porte du Palais du Peuple. Ils exigent, entre autres, davantage de sécurité et la réouverture des chaînes proches de leur leader Jean-Pierre Bemba. Et dans les provinces, les budgets provinciaux divisent les institutions. Certains gouverneurs dépendent ces prévisions au gouvernement central. Leurs assemblées provinciales estiment qu'elles devraient y voir clair en premier. Nous analyserons donc toute cette actualité avec nos confrères de la presse. Fidèle Moussangou du journal Le Phare est au studio avec Giscard Koussema, rédacteur en chef de Digital Congo TV, et en ligne de Bukavu, Deo Namujimbo, journaliste responsable de l'agence City à Grand Lac, et depuis Washington au téléphone, Ferdinand Perella, rédacteur en chef du service francophone de La Voix de l'Amérique. Nous disons bonsoir et bienvenue à tous.
Bonsoir.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-999-222.
Quelle action menée contre les rebelles étrangers à l'est du pays? C'est la question qui a préoccupé les chefs d'état-major généraux des armées rwandaises, ougandaises, burundaises et congolaises. Ces forces qualifiées de négatives par les responsables militaires de quatre pays se trouvent en majorité sur le sol congolais. Quelle stratégie pour mettre fin à leurs activités et à l'insécurité qu'elles craignent? Les chefs des armées avancent quatre propositions qui devraient être adoptées par les responsables politiques. Quelle écoutez.
Scénario 1, les actions menées par les FARDC. Dans ce scénario, la République démocratique du Congo engage, avec l'appui des services de renseignement des pays de la Tripartite plus 1, ses forces armées pour intensifier dès maintenant et au plus tard, en dehors de 2 mois, son offensive contre les forces négatives basées sur son territoire. Scénario 2, des opérations séparément planifiées. Ici, chaque pays développe un plan opérationnel contre les forces négatives, mène des opérations offensives contre les forces négatives spécifiques. La collaboration et la coordination exigées avec le pays hôte pour définir les modalités pratiques d'exécution sur le terrain. Scénario 3, les opérations combinées en phase. Chaque pays développe un plan opérationnel contre ses forces négatives. Les pays décident vers quelles forces négatives lancer l'offensive en premier lieu. Les États membres coalisent leurs forces pour lancer une opération offensive contre la force négative de chaque pays en phase successive. Scénario 4, l'appel à la communauté internationale. Là, il s'agit de demander à l'Union africaine et aux Nations unies de définir un nouveau mandat plus robuste en vue de l'éradication définitive des forces négatives opérant dans la sous-région.
Alors, Deo Namujimbo, vous êtes à Bukavu, une région en proie aux activités des FDLR. Est-ce que les populations ont elles-mêmes suivi la tripartite?
La population a très bien suivi et puis on a constaté que c'est le scénario 1 qui a déjà été commencé au sud Kivu parce que bon à deux.
Ouais, nous avons des problèmes avec vous. Est-ce que vous nous captez mieux? Voilà, ça ne va pas toujours. Alors, Fidèle Moussangou, vous avez suivi aussi la tripartite et surtout la réunion des chefs d'état-major. Quel est votre commentaire à ce sujet, surtout les quatre scénarios?
Ma réaction est assez mitigée, partagée. La première chose, c'est que je salue la victoire de la raison, la victoire du droit, la victoire du bon sens face aux forces du mal, aux forces qui agressent le pays, qui détruisent le pays. On devrait faire ça depuis bien longtemps, depuis même l'époque des musées. On n'aurait pas pu attendre qu'on fasse couler le sang, qu'on détruise des pays, qu'on viole des femmes, qu'on viole des petites filles, qu'on tue des vieillards. Donc on revient à la raison. Mais d'autre part, je déplore une chose, c'est qu'encore une fois, les autorités du pays montrent leur incapacité à régler un problème congolais par des Congolais. On n'a pas besoin d'aller chez les Rwandais, chez les Burundais, on leur donne raison, mais non, parce qu'ils réclamaient ça depuis longtemps. Ils disaient, si vous n'avez pas des moyens, on peut vous aider. En disant non, on a gardé ces forces génocidaires au pays pour rien. Écoutez, ces gens ont
fait... Est-ce que c'est facile dans la situation actuelle avec une armée qui se réforme?
Écoutez, nous avons des meilleurs officiers. Je crois que les meilleurs d'Afrique formés dans des meilleures écoles au monde et aux États-Unis, en France. On peut les faire venir, donc faire appel à eux. On leur donne des hommes, on donne des moyens financiers, matériels. Et les Interahamwe n'ont pas deux mois, ils n'ont pas deux mois. On donne des moyens, et bien on les traque, et bien ils rentrent chez eux ou on les anéantit. Nous avons les moyens intellectuels, nous avons de l'argent pour ça.
Alors donc, pour vous, le scénario numéro un, ce qui concerne l'action des FARDC, est le meilleur scénario?
Pas question de recourir au Rwandais ou au Burundais, pas question. Nous avons des moyens pour faire ça par nous-mêmes. Il est grand temps qu'on puisse régler nos problèmes par nous-mêmes, pas recourir aux étrangers.
Alors, Giscard Kouséma, vous êtes rédacteur en chef de Digital Congo. On sait que la position de la RDC, évidemment, c'est pas d'accepter des forces armées étrangères pour résoudre cette question. Mais comment vous analysez en même temps cette réaction et le souci rwandais de venir régler le problème?
Écoutez, c'est d'abord une avancée significative que tous les États s'accordent aujourd'hui à dire qu'il faut à tout prix mettre fin à ces, il faut neutraliser toutes ces forces négatives. Maintenant, par quel scénario peut-il passer? Et là, je ne suis peut-être pas d'avis avec mon prédécesseur de tout à l'heure. Aucune opération aujourd'hui de démantèlement de ces forces négatives ne peut se faire sans les concours de pays d'où viennent ces forces. Donc, c'est déjà bon qu'il y ait une prise de conscience collective entre les deux États. Et maintenant, il faut qu'il y ait des actions qui soient tout de même coordonnées. Ce n'est pas toujours évident que les deux postes doivent être sur le terrain, mais il faut qu'il y ait tout de même un mécanisme de collaboration. Alors, parmi le scénario qui ont été proposés ici, je pense qu'il y en a qui ont déjà montré leurs limites. Je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui faire appel à une force onusienne pour démanteler ces réseaux.
Donc, vous expliquez le scénario...
Le scénario 4 est à exclure parce que l'ONU a déjà fait ses preuves de limites dans ces genres d'opérations. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on soit en mesure de me dire qu'à tel coin de la planète, l'ONU a déjà réussi ces genres d'opérations. Non. Je crois que ce sont des pays concernés. Donc, je soutiens ici, je pense, le scénario 2, c'est-à-dire des actions séparées, d'une part dans le pays où opèrent ces forces du mal, pour le cas de la RDC. Donc, il faut traquer d'abord les forces armées congolaises doivent traquer ici, mais aussi il faudrait qu'il y ait
une contribution des autres armées.
Une contribution des autres armées, par exemple, des mécanismes pour recevoir ces forces du mal. Voilà.
Alors, Ferdinand Perella, vous avez suivi nos deux confrères avec deux points de vue un peu opposés. D'abord, votre réaction?
Je dirais que moi aussi qu'il y a une solution, en tout cas un scénario qui est pratiquement exclu à l'heure où nous parlons, c'est celui qui consisterait à avoir une force conjointe régionale qui viendrait traquer les forces négatives sur le sol congolais. Ce scénario, le ministre congolais des Affaires étrangères, Mboussa Nyamwisi, l'a exclu d'office au micro de la Voix de l'Amérique cette semaine en rentrant de Bujumbura. Cela dit, c'est une bonne chose qu'il y ait une coordination entre les chefs d'état-major des armées des pays de la région, comme ça s'est passé à Bujumbura, dans la mesure où c'est effectivement par un concours qui ne nécessite pas nécessairement une intervention directe sur le terrain, qu'on pourra venir à bout de ces forces négatives. Vous savez que dans le cadre de la tripartite plus, comme on l'appelle maintenant, dont les États-Unis sont médiateurs, il y a des réunions régulièrement, et notamment des réunions au niveau des chefs de renseignement à Kisangani, je crois. Donc déjà, pour ce qui est du renseignement, c'est extrêmement important de savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, et c'est une collaboration supplémentaire de la part des pays de la région. Il ne faut pas oublier, par exemple, que l'affaire Laurent Kounda a été réglée notamment grâce à la médiation
l'intervention du Rwanda. C'est exactement, c'est essentiellement après l'intervention du Rwanda que Laurent Kunda a finalement décidé d'arrêter la lutte armée et de déverser ses troupes dans l'armée nationale congolaise. Donc il y a une collaboration qui se fait déjà au niveau régional et qui doit continuer à se faire, qui va continuer à se faire à travers ces tripartites de plus qui se réunissent régulièrement.
Alors Ferdinand, vous avez souligné la position du ministre de la coopération Busanyamwisi. On sait que le Rwanda aussi avait déjà menacé plusieurs fois de faire intervenir ses propres troupes et il y a toutes ces propositions qui se retrouvent. Croyez-vous que les responsables politiques pourront trouver les justes milieux?
Bon, il y a encore beaucoup de méfiance effectivement entre ces pays, c'est normal, hein, la RDC a été envahie deux fois par des participants à cette tripartite, trois peut-être, si on inclut le Burundi, donc c'est le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, donc il est normal qu'il y ait encore une certaine réticence à revoir au Kivu, aussi bien au nord qu'au sud, des armées qui étaient des armées d'occupation. Mais encore une fois, c'est le fait qu'il y a un mouvement, une dynamique régionale, non seulement pour régler les problèmes militaires, mais par exemple, ça s'est traduit dans la relance de la CPGL, qui était en veilleuse, vous savez, depuis 1994. Donc il y a une réelle volonté de rentrer dans l'Afrique du Grand Lac, dans une période post-conflit et une période de coopération plutôt que de confrontation militaire.
Alors on va tenter avec Deona Mudimbo de Bukavu si ça va. Vous écoutiez Ferdinand Ferrella soulever tout à l'heure la relance de la CPGL. Qu'est-ce qui est prioritaire, Deona Mudimbo, la coopération économique ou l'aspect militaire?
Bon, écoutez, je dois tout d'abord dire... Voilà, c'est que...
Désolé, nous avons une très mauvaise communication avec Bukavu. Je relance la même question avec Fidel Moussangou. Qu'est-ce qui est prioritaire, la coopération économique ou l'aspect militaire?
C'est d'abord une affaire de la gestion des hommes, des ressources humaines. Et l'homme ne se gère pas avec les armes. L'homme se gère avec la nourriture, l'école, les centres médicaux. Voilà l'homme.
Le bien-être social, vous voulez dire.
Alors, il faut commencer par la coopération économique, parce que c'est ça la vie de tous les jours. Allez à Bukavu, à Goma. Les mouvements des gens entre Bukavu et Tchangungu, Goma, Gisenyi, Kigali, c'est tous les jours, nuit et jour. À l'époque, les gens circulaient nuit et jour. Il n'y avait pas de barrières. Quand on allait au Rwanda, on y allait comme ça. On allait boire, moi je me rappelle, j'ai grandi comme ça. Il faut commencer par rétablir ça. Il faut donc faciliter les relations, les échanges entre les hommes d'abord, pour dissiper les malentendus et la méfiance et les complexes inutiles qu'on a créés avec ces soi-disant de guerre.
Mais vous avez donné là l'exemple du commerce frontalier. Est-ce que ce commerce-là est possible s'il y a de l'insécurité?
On est vu que de ça, aller à Bukavu. Mais les gens de Bukavu, quand ils vont prendre les marchandises à Dubaï, ils passent par le Rwanda. On ne passe pas par l'Ouganda, par le Rwanda. C'est les gens de Beni passent par le Rwanda. À Goma. Mais aller à Goma. À Goma, la frontière entre le Rwanda, le Burundi et le Rwanda, c'est comme à minuit. Et c'est juste théoriquement. Mais quand vous allez du côté des Brazzaville, les gens sont venus toujours vivre de voyage. Moi, je connais une famille qui habite à la frontière. La fenêtre donne au Rwanda. Le salon donne au Congo. Alors, ils sont au Rwanda et au Congo en même temps. C'est visible à Bukavu. Donc, commencez par rétablir la facilité des échanges entre les hommes. Que les Rwandais viennent à Bukavu boire de la bière comme à l'époque. Que les femmes de Bukavu aillent au marché à Tchangourou. Voilà ce qu'il faut rétablir. Les armes, ça, c'est un fait des bâtards. Moi, j'ai mes filles des armes. Je suis un pacifiste. Le problème, là, que vous voulez évoquer, par exemple, de la coopération militaire, je vous dis qu'il ne faut pas introduire le loup dans la bergerie. Les problèmes congolais sont à traiter entre congolais. Nous avons une armée. C'est question de la ressuscité.
Mais est-ce que quand on parle des FDLR, est-ce que c'est un problème uniquement congolais?
Oui, parce que les FDLR, on n'a rien à voir avec leur... Écoutez, quand ils sont au Congo, ils sont plutôt congolais. C'est nous qui réglons ça. Quand nous allons les anéantir ou les chasser, qu'ils aillent se faire casser la gueule au Rwanda, ça ne nous regarde pas. C'est leur problème à eux, ils n'ont rien le problème à eux. Quand nous avons le problème, par exemple, on appelle par les Rwandais, les Interamouais, parmi eux, il y a des gens à récupérer. Moi, j'ai été au Rwanda, j'ai vu les centres, on les récupère. Et il y a certains qui vont là-bas, qui sont recyclés, qui rentrent pour encourager les autres. Donc, il y a déjà des structures d'accueil au Rwanda. Ça les regarde à eux. Nous, on dit, monsieur, foutez le camp. rentrez chez vous. Ils ne veulent pas, on les anéantit immédiatement. On met face au problème, sans devoir passer par les Rwandais. J'ai suivi derrière là. La coopération souvent des renseignements. Attention, méfiez-vous. Nous avons un secteur assez délicat auprès de l'armée. Nous venons d'une soi-disant guerre. Alors il faut d'abord casser cette méfiance, éviter ça. Nous venons au problème et les autres règlent ça chez eux.
Giscard Koussema, qu'est-ce qui devrait précéder l'économie ou l'aspect militaire?
Écoutez, vous savez, aujourd'hui, comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, le commerce, il est déjà effectif en dehors des frontières. Goma et Bukavu consomment rwandais, consomment ougandais et ne dépendent pas forcément de Kinshasa, en tout cas. Donc, je pense que la crise entre ces États, qui sont d'ailleurs condamnés ensemble, elle est politique. Donc, la crise, elle est politique, mais en tout cas, sur le plan sociologique, ces peuples sont condamnés à vivre ensemble et à aller dans ces villes citées tout à l'heure par Fidel Moussangou. Vous vous en rendrez compte. Donc, bien au contraire, si aujourd'hui le problème politique est réglé, mais je pense que ce serait le meilleur exemple, peut-être au monde, des coopérations entre États. Donc, lorsque vous allez à la frontière, vous verrez que même en pleine guerre, même en pleine rupture de coopération entre États, mais les populations s'en vont sans moindre restriction. Sans moindre restriction. Donc, je pense que le problème politique, une fois réglé, aiderait plutôt à raffermir ce qui existe déjà comme lien économique entre eux.
Alors, très court, Ferdinand Perella, on termine avec vous sur ce point. Est-ce que la méfiance pourra être évitée par la politique, l'économique ou le militaire?
Bon, je prendrai l'exemple de l'Europe. Hein. L'Union européenne, à l'origine, c'était la communauté européenne, la communauté économique européenne, a été créée pratiquement quelques années après la fin de la guerre, hein, en 1952, avec la communauté de l'acier déjà. Et l'une des idées des visionnaires de l'Europe, c'était déjà de pacifier l'Europe, de faire la paix en Europe, de préserver la paix en Europe à travers la coopération économique, à travers l'intégration économique, avec cette idée que quand deux États font du commerce, eh bien, ils n'ont aucun intérêt à se battre. Donc, je dirais que oui, il faut que la priorité soit donnée au commerce, à l'économie. Mais d'un autre côté, il est difficile de faire du business, du commerce au Kivu ou ailleurs s'il règne l'insécurité. Donc, les deux sont liés. Il faut, à mon avis, à la fois relancer la coopération, l'intégration régionale à travers la CPGL, c'est fait, mais en même temps faire un effort soutenu et coordonné de sécurisation de la région afin que ce commerce puisse fleurir.
Céline de la presse qui analyse les faits marquants de la semaine avec les journalistes dans ce studio, Fidel Moussangou du journal Le Phare, Giscard Koussema, rédacteur en chef de Digital Congo TV, depuis Washington au téléphone, Ferdinand Perella, rédacteur en chef du service francophone de la Voix de l'Amérique. Nous disons au début de cette tribune, pas de plénière à l'Assemblée nationale cette semaine. Cela fait 7 jours aussi que les députés de l'opposition ont suspendu leur participation aux travaux de cette chambre du Parlement. C'est les députés MLC Thomas Louaka qui justifiaient d'ailleurs cette suspension.
C'est l'insécurité de plus en plus grandissante qui règne dans la ville de Kinshasa et en particulier dont sont victimes les députés, sénateurs et membres, cadres militants de l'opposition politique. L'honorable Omer Egwake Yangembe, élu de la ville de Bumba dans la province de l'Équateur, a été visité par 12 hommes en armes qui ont opéré pendant plus de 40 minutes, qui ont volé, qui ont menacé, qui l'ont intimidé, qui ont même tiré des coups de feu chez lui. Avant ça, nous avons connu les cas de l'honorable Franck Diongo, Lisanga Bunganga, José Makila. Donc il y a plusieurs cas comme ça qui continuent à s'accumuler. Nous pensons que ce n'est pas normal. Si nous voulons travailler dans la sérénité, la première des choses, il faut que la sécurité soit garantie. Et la deuxième raison, aujourd'hui, il y a manipulation de l'opinion publique. Nous avons assisté à une mascarade de manifestations organisées par certains leaders politiques pour discréditer les politiciens de l'opposition. Ce qui aura peut-être pour conséquence de nous exposer, nous politiciens de l'opposition, à des représailles injustifiées. Aujourd'hui, on a donné 1000 francs congolais, 1500 francs congolais à des paisibles citoyens pour qu'ils puissent manifester dans la rue contre l'opposition. Donc voilà, nous considérons que c'est quand même des faits graves qui peuvent porter atteinte à notre intégrité physique.
Des raisons donc qui ont poussé l'opposition à quitter l'hémicycle du Palais du Peuple. Alors, Giscard Koussema, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la sécurité est restaurée pour que l'opposition puisse retourner au Parlement?
Non, je crois que ce serait pas courtois de ma part de donner une réponse aussi fantaisiste par un oui ou un non. Je crois qu'il faut voir le problème dans son entièreté. Sur le plan du pont, on peut se mettre d'accord avec Thomas Loaka qu'il existe des problèmes de sécurité à travers la ville. Et ces problèmes concernent tout le monde. Donc, c'est un problème globalisant. C'est peut-être que lui s'est contenté de voir autour de lui, autour de sa famille politique, mais il y a d'autres paisibles citoyens qui n'ont peut-être pas de représentants au Palais du Peuple pour le défendre. Le problème, il est réel. Maintenant, le problème, c'est par rapport à la manière d'agir de députés de l'opposition. Je pensais que l'Assemblée nationale était le cadre idéal où devrait se traiter ce genre de...
Et avoir un débat démocratique au sein.
Bien sûr. Il existe d'ailleurs des structures spécialisées, des commissions qui peuvent discuter et proposer ce genre de solutions. Mais lorsqu'on doit sécher la salle de conférences du Palais du Peuple et changer pratiquement des cahiers de charges, je crois que là, il y a un agenda à cacher. Je le dis parce que c'est qui des indiscrétions qui sortent de différentes tractations entamées jusque-là avec ces députés montrent que les cahiers de charges aujourd'hui a changé. Il a bien souligné, on parlait d'un problème d'insécurité qui est généralisé, j'insiste, et puis des manipulations de l'opposition, aujourd'hui les cahiers des charges et tout autre.
Est-ce qu'il y a d'autres problèmes que réclame l'opposition aujourd'hui?
Bien sûr, la réouverture de chaînes de télévision, on parle également de la suspension de toute procédure judiciaire contre Jean-Pierre Bemba, on parle de la libération des prisonniers politiques. Alors, vous voyez que là, il y a pratiquement un hiatus entre ce qui avait été posé comme problème au départ et ces autres problèmes.
Mais on parle là aussi des problèmes de fond.
Ce sont des problèmes de fond, bien sûr, je veux bien, mais il existe un cadre. Il existe un cadre de concertation. Thomas Loaka est député, mais il n'a pas une tribune qui le soit plus libre que celle de l'Assemblée nationale. Et là-dedans, on peut trouver ce genre de solution, mais plutôt qu'à faire Mélo, on se retire de la salle et puis on pose d'autres conditions. Je pense qu'il faut, il y a des problèmes, effectivement, mais comment aborder ces problèmes? Le problème de la sécurité. Mais on ne peut pas aujourd'hui, par un bateau magique, dire voilà, on va faire ceci pour mettre enfin, mais qu'est-ce qui est à la base de cette insécurité? Vous savez, les événements du 22 et 23
mars dernier.
Voilà, l'événement du mois de mars dernier, du 22 et 23. Est-ce que toutes ces forces négatives avaient-elles été anéanties? Même si la victoire, elle a été celle des forces armées régulières. Mais qu'est-ce qu'ont devenu les autres? Est-ce que toutes sont en exil, comme Jean-Pierre Bemba? Mais ils sont peut-être courts les rues. Et puis s'ils se retournent auprès de ceux qui les ont gérés hier, peut-être qu'il existe des problèmes entre eux.
Ferdinand Ferreira, votre commentaire, est-ce que vous pensez que la crise va se terminer très tôt ou elle va durer encore?
Tout d'abord, je m'étonne que déjà depuis une semaine, on n'ait aucune nouvelle des négociations qui avaient été entamées au sujet justement de la sécurité des députés du MLC. Aussitôt que l'annonce de la suspension de leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale a été annoncée, on a dit qu'il y avait des tractations avec Vital Kamerhe, avec d'autres membres du gouvernement pour voir comment on pouvait sécuriser les députés MLC. Et apparemment, rien n'a été fait, on n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Donc est-ce qu'on veut laisser pourrir la situation? Je ne sais pas, ce serait en tout cas très dangereux parce que plus l'opposition restera hors de l'enceinte parlementaire et plus on aura l'impression qu'on se dirige vers un pays où, monopartite, je dirais, puisque l'opposition n'a pas la possibilité de fonctionner. Les craintes des députés MLC, elles sont réelles. J'ai eu l'occasion de parler avec eux hors micro et ils m'ont dit qu'effectivement, ils avaient très peur, la nuit, ils ne dorment pas, et comment, me disent-ils, est-ce qu'on peut fonctionner pendant la journée quand la nuit, on craint toujours une visite nocturne. Donc, il faut rassurer tout le monde, encore une fois, et il faut faire un effort réel, et j'ai pas l'impression que pour l'instant, en tout cas, les résultats ne sont pas visibles, qu'il y a véritablement une volonté de normaliser la situation et de démarrer une fois pour toutes les travaux législatifs et de l'exécutif, parce qu'il faut bien le dire, beaucoup de Congolais commencent à se poser des questions. Est-ce que le gouvernement gouverne? Est-ce que le législatif légifère? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, Ferdinand Perella, on sait aussi que certains députés de l'opposition ont appelé le chef de l'État à pouvoir intervenir. Qui, d'après vous, devrait régler ce problème? Le chef de l'État ou au sein de l'institution Parlement, comme l'a dit Justin Kousséma?
Bon, je pense qu'il faut le concours de tous, et certainement que si le chef de l'État pouvait donner une impulsion à ces tractations et négociations, ces négociations il y a, ce serait bénéfique. Mais il faut avant tout que les décisions qui seront prises soient acceptées par tout le monde et que les règles du jeu soient connues afin que le jeu démocratique s'exerce véritablement. Donc il faut en fait décider une fois pour toutes si on veut avoir au Congo une démocratie pluripartite ou est-ce qu'on veut éliminer les opposants de façon à ce qu'ils ne jouent plus le jeu démocratique. Et les opposants, il faut qu'ils donnent des gages aussi, que ce sont des véritables opposants politiques et non pas des opposants qui seront prêts à tout moment à reprendre les armes. Je crois qu'encore une fois, on m'a parlé tout à l'heure qu'il y avait encore beaucoup de méfiance entre les pays de la région. Il y a encore aussi beaucoup de méfiance à l'intérieur même du Congo entre les différents acteurs politiques et les anciens belligérants. Et ça, il va falloir la mettre derrière si on veut véritablement redémarrer.
Fidel Moussangou, est-ce que la stratégie de l'opposition, c'est pas finalement de montrer que nous ne sommes pas concernés par ce qui se passe au pays et qu'il y a un monopartisme?
Écoutez, je suis en train de constater que la réaction des prétendus opposants, parce que ce qui leur arrive aujourd'hui était prévisible. Quand ils étaient au pouvoir il y a quelques mois, ils n'ont jamais réglé ce problème. Quel est le problème du pont? Mais là, ils se plaignent, parce que ça leur arrive à eux. Mais les sécurités, je suis content de vivre dans un pays, disons dans une ville, qui dispose d'une police mal équipée, mais qui quand même assure la sécurité. Des cas de viol, d'assassinat sont minimes et mineurs. Je suis journaliste. Je reçois chaque fois des plaintes. C'est toujours, on a braqué ici, on a tué, etc. D'ailleurs, ça fait toujours les marchés des journaux. Mais aller dans une ville comme Jobourg, où chaque jour on assassine 15-20 personnes. Qu'est-ce qui se passe encore? Quel est le problème du pont que l'OACA n'avait pas posé? Ils auront de le poser aujourd'hui. C'est le problème de la gestion des services de renseignement. C'est depuis Mobutu. Les services de renseignement appartiennent toujours au pouvoir. Et quand quelqu'un passe à l'opposition, il devient traqué. Quand il est au pouvoir, il n'est plus traqué. L'OACA est traqué aujourd'hui, hier il ne l'était pas.
Mais on peut dire quand même que leurs revendications sont fondées, ces services devraient travailler.
Il faut soigner le mal à sa racine. Quand ils étaient au pouvoir, l'une des résolutions des Centres d'études disait qu'il fallait réorganiser les services de sécurité, qu'ils soient des services, attention, d'intelligence et pas des services de répression. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les prisonniers politiques? Ils ne sont pas à Makala, ils sont ici au service de la police, ils sont peut-être à l'ANR ou à la DEMIAP, ils ne sont pas à Makala, ils n'ont jamais été. Excusez-moi, ils n'ont jamais été
des confouillants.
C'est des confouillants, ils connaissent le fond du problème parce qu'ils s'expriment, ils sont en dehors. Quand ils étaient là-bas, mais là, dites-nous, que diraient les gens de l'UDPS qui sont toujours en eux-mêmes, traqués, massacrés? Ils ne se plaignent pas, ils savent qui les matraque. Les gens de la police normale ou bien de la justice n'ont jamais été chez eux. C'est toujours services spéciaux. DEMIAP, ANR, c'est toujours eux. Et l'OACA le sait. Donc le point du problème, c'est ça. On n'a pas demandé au chef de l'État d'aller s'occuper des exécutés. C'est eux qui doivent maintenant régler cette affaire. Que les services exécutés soient au service de la nation. Et qu'ils soient des services de renseignement, des services d'intelligence, d'analyse des problèmes, pour même le problème d'appel. Le problème dans la vie, c'est un problème qui doit accaparer l'ANR, la DEMIAP, les services spéciaux, pas attaquer les gens. Voilà le point du problème. Maintenant, les revendications à propos de Bemba et compagnie. Mais mon cher ami, il y a des mécanismes de droit. Si on poursuit Bemba aujourd'hui, maintenant il faut aller devant la personne qui poursuit pour lui montrer que cette poursuite n'a pas de sens. Si on leur dit, voilà, ce qu'on reproche à Bemba n'est pas vrai par ça et ça, lui, au loi réjouisse. Il le sait bien. Bon, le problème de la rouverture des chaînes de télévision compagnie, mais ce n'est pas aller voir le chef de l'État, c'est moi minimiser la fonction présidentielle. C'est un problème à aller voir qui? Le gouverneur de la ville,
le commandant de la police. Allez voir les gens de l'arme. N'allez pas là, même, monsieur le ministre. Monsieur le gouverneur.
C'est un problème politique.
C'est un problème politique. C'est un problème politique. Administratif et tout. Dites ouvertement au gouverneur, si vous n'ouvrez pas, si vous ne donnez pas les ordres aux policiers qui sont là-bas, de laisser entrer nos journalistes, nous allons saisir la Cour suprême contre vous. Nous allons voir les mécanismes de droit chez les juges. Il faut utiliser les mécanismes qui sont traditionnels. Ça, c'est un. Deuxième élément. Quand on parle de... qu'est-ce qu'ils ont envoyé au motif, là, comme cahier des charges? Il y a des raisons mineures. Donc, le problème du fond, c'est les services de sécurité qui sont au service du pouvoir. Et parfois, tribalisés. C'est le problème.
Est-ce que vous avez une réaction, Giscard Coussement?
Exactement, dans pratiquement le même esprit que Fidel Monsango tout à l'heure, et pour corriger aussi les propos tenus tout à l'heure par Ferdinand Serrella, retour au monopartisme, je crois que c'est très fort comme expression. On l'a démontré tout à l'heure.
L'opposition aussi l'utilise, hein, estimant que la communauté internationale a dépensé ses 500 millions pour rien.
Oui, mais 500 millions pour quel résultat? Pour vivre ces gens, parce qu'une chaîne de télévision est fermée. Et donc, tout est à refaire parce que, non, je ne pense pas qu'il ne faut pas y voir le problème de cette manière-là. Il y a la forme, en tout cas, il y a des questions, des fonds, bien sûr, mais la forme, en tout cas, elle n'est pas celle utilisée par le député de l'opposition. Et dire qu'il n'existe pas de tractation, c'est une contre-vérité. Il y a des concertations qui sont d'ailleurs très avancées. C'est vendredi après-midi, il y a une réunion entre le président des groupes parlementaires, y compris ceux de l'opposition, Thomas Louaka est dans cette réunion-là, et tous les autres, voilà, et tant que les négociations n'ont pas abouti, on ne peut pas anticiper et le publier à la presse, mais il existe bien sûr de négociations, et le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui est rentré d'Afrique du Sud, a déclaré qu'il y avait une avancée dans ces concertations-là.
Ferdinand Ferreira, est-ce que le pouvoir en RDC y perdrait si l'opposition se renfermait dans sa position?
Bon, tout d'abord, je voulais remercier le confrère de me mettre à jour sur les négociations. Je suis content d'entendre qu'il y a encore des tractations en cours pour essayer de régler le problème. Vu de Washington, ça semblait plutôt calme de ce côté-là, mais je suis heureux d'entendre qu'effectivement le dialogue se poursuit. Bon, je crois que non seulement le pouvoir, mais le peuple congolais y perdrait si on devait s'enfoncer dans une nouvelle crise. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. On ne peut pas passer de crise en crise continuellement. Il faut à un moment donné se mettre au travail et reconstruire le pays. Donc, quelle que soit la solution qui soit trouvée, et je ne voulais pas dire tout à l'heure que le pays se dirigeait vers le monopartisme, mais c'est un danger qui a été évoqué par plusieurs acteurs, aussi bien au niveau national qu'international. Regardez ce qu'a dit Rouberoy cette semaine, ce n'est pas rassurant. Est-ce que le pouvoir sera raffermi? Très certainement. Les démocraties, les pouvoirs les plus forts, en fait, si vous regardez au niveau de la planète, ce sont les pouvoirs où il y a un contre-pouvoir tout aussi fort. Et donc, c'est ça qui leur permet de se maintenir au pouvoir, c'est qu'ils sont obligés à chaque fois de justifier leur existence en raison même du contre-pouvoir qui est toujours là, prêt à le remplacer. Donc, la démocratie parlementaire ne pourra fonctionner que s'il y a une opposition qui puisse effectivement fonctionner. Et je suis heureux d'entendre qu'il y a encore des négociations pour essayer de régler ce problème.
Tribune de la presse qui analyse les faits marquants de la semaine avec les journalistes. Dans ce studio, Fidel Monsango du journal Le Phare, Giscard Coussema, rédacteur en chef de Digital Congo TV. En ligne de Bukavu, nous avons perdu Deo Namujimbo, mais depuis Washington, au téléphone, Ferdinand Ferreira, rédacteur en chef du service francophone de La Voix de l'Amérique. Troisième fait marquant qui a nourri la presse congolaise ce jour, c'est la polémique entre les institutions provinciales, polémique axée sur l'élaboration et la défense du budget. Par exemple, au Sud Kivu, l'Assemblée provinciale proteste contre la démarche de l'exécutif provincial de défendre le budget à Kinshasa. Selon le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, le gouverneur du Sud Kivu devrait attendre que le budget de l'Assemblée en cours d'élaboration soit incorporé à l'ensemble des prévisions budgétaires. En cela, et cela, selon lui, après la nomination et l'investiture des ministres provinciaux, le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale, Isaac Boucher-Kabiri, au micro de Michel Tchirimouani.
nous croyons, nous, assemblée provinciale, qu'amener le budget pour approbation à Kinshasa, c'est une entorse constitutionnelle. Parce que l'article 127 prévoit que l'assemblée provinciale vit d'une autonomie financière et administrative. Et à cet effet, en ce qui concerne l'approbation du budget, l'exécutif élabore le budget qu'elle soumet à l'assemblée provinciale pour approbation. Si l'exécutif provincial a dû amener son budget non encore approuvé par l'assemblée provinciale, ce budget qui se défend à Kinshasa, sans l'avoir l'assemblée provinciale, ne serait pas accepté par l'assemblée provinciale. Aujourd'hui, on n'a pas encore un gouvernement provincial. Comment une équipe provinciale peut élaborer un budget qui sera exécuté par l'ensemble des ministres de la province et il s'envoie à Kinshasa pour défendre quoi qui n'est pas passé par la première assemblée provinciale?
Alors, pour les chefs des exécutifs provinciaux, il s'agit d'un malentendu. D'autres estiment que le budget en question n'est qu'un brouillon. Réaction de Léon Moumaté, vice-gouverneur du Sud-Kivu, qui passait à dialogue entre Congolais cette semaine.
Je ne pense pas que ce soit le préalable majeur. C'est un projet de budget que nous harmonisons avec le ministère de l'Intérieur, qui est passible d'amendements. D'autant plus qu'un budget, c'est quelque chose de dynamique. Ce n'est pas figé. Mais aussi, je voudrais dire que le Sud-Kivu n'est pas la seule province à Kinshasa. C'est plutôt une question nationale. Et en tant que tel, nous avons accepté tous de venir à Kinshasa. Nous avons rencontré tous les collègues sur place, tous les présidents des assemblées provinciales ou leurs délégués. Et donc, ce n'est pas figé.
Autre réaction aussi enregistrée sur cette question, c'est celle du ministre d'État en charge de l'Intérieur. Des passages ce vendredi à Bukavu, Denis Kaloumé estime qu'en l'absence des lois attendues sur le fonctionnement des provinces et la rétrocession, mieux vaut un budget que l'absence du budget.
Nous venons d'échanger. On leur a fait comprendre que la Constitution a prévu toute une série de dispositions pour permettre à ce qu'elles puissent s'appliquer complètement. C'est un processus évolutif et l'accomplissement pourra se faire dans 3 ans. En attendant, nous travaillons avec des dispositions transitoires. Donc, en ce qui concerne les budgets, et compte tenu des contraintes qui sont là, il fallait tout d'abord que toutes les lois soient en place concernant les 40%, concernant les 10%, les mécanismes de collecte, les mécanismes de distribution pour permettre à ce qu'au niveau des provinces, chacun puisse déjà savoir comment il va utiliser cet argent. Comme ces lois ne sont pas là, on a jugé utile que nous puissions travailler. Les ministres des budgets, les ministres des finances, les ministres du plan, les ministres de l'intérieur ont jugé utile qu'on puisse faire venir et les gouverneurs de province et les présidents de l'ensemble pour que nous puissions rapidement élaborer ces budgets-là en échangeant directement avec eux pour qu'on présente ça à la fin de ce mois d'avril et que ça puisse arriver au Parlement. Parce que c'est plus grave que nous nous retrouvions ça.
Denis Kaloumé Numbi, ministre d'État en charge de l'Intérieur, était au micro de Dieudonné Bagaloua. Alors, Ferdinand Ferrella, quel est le problème ici? C'est l'absence de loi en ce début de Troisième République ou c'est la continuité d'un État centralisé?
Bon, je dois dire que je n'ai pas suivi cette histoire de très près pendant cette semaine, mais il me semble que c'est un petit peu les deux, effectivement. Hein. C'est le fait que le Congo est un très très grand pays et que le Sud Kivu est très loin de Kinshasa et que souvent, on a pris l'habitude au Kivu de ne pas compter sur Kinshasa. Ça a été le cas sous le régime Mobutu, c'était encore le cas sous le régime de Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, bon, le Sud Kivu a voté pour l'actuel gouvernement, pour l'actuel président, et il attend des résultats, et malheureusement, bon, ces résultats tardent un petit peu à arriver, et c'est pour ça qu'il peut y avoir des frictions. Mais je crois que dans l'ensemble, il est extrêmement salutaire maintenant qu'il y ait une dynamique entre les provinces et le pouvoir central. Je parlais de contre-pouvoir tout à l'heure au niveau de l'Assemblée nationale et puis du Sénat, et au niveau politique, mais aussi au niveau administratif, et il y a des contre-pouvoirs qui s'exercent, et ça, je crois que c'est extrêmement salutaire pour la République démocratique du Congo.
Alors, Jusqu'à forcément.
Je pense que le propos tenu tout à l'heure par les ministres de l'Intérieur me semble un peu rationnel. Dans quel sens? Vous savez, c'est d'abord une nouvelle expérience, celle de faire cohabiter des institutions décentralisées et puis le gouvernement central ici. Il y a aujourd'hui beaucoup de préalables pour que cela arrive. La décentralisation est un processus et tous les préalables ne sont pas encore aujourd'hui mis en place. On a parlé tout à l'heure de la loi sur la décentralisation, mais au-delà de ces textes, mais il y a aussi les sources de revenus. Aujourd'hui, je crois que ce serait trop risqué que de laisser la totale indépendance au gouvernement provincial de pouvoir élaborer des budgets. Peut-être que le budget d'une seule province peut concurrencer aujourd'hui le budget de l'État. Or, il existe pour cette première année au moins de sources de revenus qui sont un peu hasardeuses, passez-moi l'expression. Donc, on n'est pas encore rassuré. Et donc, je pense que pour cette première année, il est compréhensible. Il est compréhensible que les gouvernements centrales ici puissent donner des indicateurs aux autres. C'est vrai que ça va demander faire fonctionner ces institutions provinciales, va demander beaucoup d'argent, encore que le gouvernement central.
C'est pour ça qu'ils ont été élus.
Mais entre-temps, on est déjà au mois d'avril. Alors vous voyez, est-ce que faut-il attendre qu'il y ait une loi sur la décentralisation qui ait des revenus? Les gouverneurs eux-mêmes viennent de commencer, les assemblées sont en train d'être installées. Je pense qu'il y a des circonstances atténuantes pour cette première année par rapport au fonctionnement des institutions décentralisées.
Est-ce que là, on ne va pas mettre même les assemblées provinciales qui ont été élues pour résoudre aussi les problèmes des populations, pour parler de la population, on ne va pas les mettre un peu en veilleuse?
Pas du tout, parce que même dans ces prévisions qui ont été, on n'a pas dit que les assemblées provinciales étaient oubliées. Non, il existe tout de même. C'est-à-dire qu'on ne leur donne peut-être pas la liberté. C'est un problème de communication, je pense. Il faudrait que le gouvernement central donne cette information-là aux assemblées provinciales. On ne les a pas oubliées, mais seulement avec des contraintes budgétaires. Il est possible, parce qu'aujourd'hui, on peut faire un très bon budget, mais peut-être qu'il sera en fin d'élaboration à la fin de l'année et il ne servira plus à rien. Et entre-temps, le gouvernement a peut-être du mal à décoller parce qu'il existe ces vies de la budgétaire. Donc je pense qu'il y a de circonstances atténuantes qui peuvent justifier ça.
Fidel Moussangou, est-ce que c'est risqué de faire intéresser les provinces à la gestion de leur administration financière surtout?
Écoutez, ce pays est doté d'une constitution qui a été adoptée en référendum et promulguée par les chefs de l'État. Alors, dès lors qu'il y a un texte, il faut le suivre, il faut le lire correctement. Je déplore le plaisir du ministre de l'Intérieur. Je déplore, c'est de bien le manger contre la nation. Il se mêle de tout et de rien, et de ce qui ne le regarde pas. Mais où est-ce que vous avez déjà vu une mise de l'Intérieur qui élabore le budget? Et puis, où est-ce que vous avez le ministre qui convoque le gouverneur? Ça n'existe plus.
Non, mais les gouverneurs aussi dépendent de lui.
Non. Lisez la constitution. Nous sommes déjà dans une république avec des entités décentralisées et qui bénéficient d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière. Lisez la constitution. On vous dit quelque part que les finances publiques de l'État sont distinctes de celles des provinces. C'est bien dit. Deuxième élément.
Il faut une loi pour rendre tout cela mécanique et acceptable.
Il fallait d'abord laisser les provinces s'organiser. D'abord, l'installation de l'Assemblée. Ensuite, laisser aux gouverneurs de mettre en place leur gouvernement provincial, les 10 ministres. Dès qu'on a les 10 ministres, on a les assemblées. Maintenant, eux qui sont sur le terrain, ils doivent maintenant faire un état des lieux. Voici la situation de la province sur le plan financier, sécurité et compagnie. Alors, ce sont des rapports qui renvoient sur le plan sécurité ici au ministère intérieur, sur le plan financier, ainsi de suite. Alors, comme on leur a permis les 40% des retrocessions à retirer à la source, avec ces moyens, ils peuvent d'abord commencer à fonctionner. Ensuite, dès qu'ils ont l'état des lieux, ils peuvent maintenant faire des projections budgétaires.
Est-ce que c'est possible maintenant?
C'est possible, mais comment? On continue à payer les taxes tous les jours, on continue à payer les taxes fiscales, parafiscales tous les jours. Mais comment? Mais dans tous les coins, même à Kindu, il y a l'Ofida, il y a la DGRAT, il y a des moyens, de l'argent qui... Malheureusement, il faut que je le dise, je l'ai écrit ce matin dans mon journal, le ministre de l'Intérieur est en train de violer la Constitution. Et là, il sera poursuivi devant la juge constitutionnelle. Parce que c'est grave, il n'a rien à voir là-dedans. Il s'est mis l'étude de rien. C'est lui qui fait la confusion. Laissez les gouverneurs et les assemblées régler leurs problèmes. Ensuite,
eux-mêmes, ils sont sur le terrain, ils connaissent leurs besoins, ils connaissent leurs problèmes. Ce n'est pas Calomenon, je suis désolé.
On va terminer avec Ferdinand Perella. Est-ce que à cette allure, vous pensez que les préoccupations de la base peuvent être vraiment prises en considération?
Bon, la base s'impatiente, c'est vrai, on le sent à travers des emails qu'on reçoit à la Voix de l'Amérique, on le sent à travers nos contacts sur le terrain, mais c'est vrai qu'il faut laisser le temps au temps. Après tout, les grandes démocraties ont pris plusieurs centaines d'années avant de s'implanter, hein, les États-Unis, ça fait maintenant plus de 200 ans. Mais je crois que simplement que si le gouvernement ou l'Assemblée nationale pouvait donner des petits signes discrets, mais quand même qui pourraient redonner le sourire aux Congolais, pas des grands chantiers nécessairement maintenant, mais quelques petits signes que quelque chose est en train de s'améliorer dans leur quotidien et que ça va se poursuivre dans les prochains mois, les prochaines années. Je crois que tout le monde sera rassuré.
Merci beaucoup à tous nos confrères d'avoir été présents à cette tribune de la presse. En tout cas, nous regrettons de n'avoir pas eu une bonne communication avec Deo Namujimbo. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Merci.
Thank you.